Et c'est marquant, Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Bien, un essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un essai qui est intitulé « Odyssée ordinaire », sous-titré « Le matin, mode d'emploi ». Il a été écrit par Blanche Léridon, il est publié par Bouquin, la collection Essais de Bouquin, 200 pages, 18 euros, et il a été publié, c'est pas si vieux, le 3 février 2022. Vous allez voir, c'est un ouvrage assez qui sort de l'ordinaire, pour un essai, il faut bien le reconnaître. Alors, qui est Blanche Léridon ? Qui est l'autrice ? Eh bien, elle est aujourd'hui directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, spécialiste des questions démocratiques et institutionnelles. Un institut qu'elle a rejoint pour la première fois en 2015, entre 2018 et 2021. Elle a exercé plusieurs fonctions au sein de cabinets ministériels, auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle y était en charge des questions parlementaires, d'égalité, des chances et de la culture. Elle a également travaillé à la présidence de l'Assemblée nationale entre 2018 et 2020, où elle conseillait le président sur les questions de culture et d'éducation. Alors je précise, Blanche Léridon est une très jeune femme. Et puisque nous émettons Toulouse, on peut le dire, elle est toulousaine, elle a sa famille ici. Blanche Léridon, ici donc à Toulouse bien sûr. Blanche Léridon enseigne à Sciences Po, un cours qui porte sur l'évolution du discours politique sur la Ve République. Et à l'Institut Montaigne, elle pilote plusieurs initiatives autour de la démocratie et du populisme. Ses thèmes de recherche sont les mutations démocratiques, l'avenir des corps intermédiaires, la communication politique et le discours. Alors elle est diplômée, maintenant on est tous très diplômés, ils sont tous très diplômés, c'est jeune, mais c'est une femme extrêmement brillante, diplômée du master d'affaires publiques de Sciences Po Paris et avant d'intégrer Sciences Po. Elle a étudié les lettres en classe préparatoire, également l'histoire à UCL, qui est l'University College London, pardon pour l'accent anglais. Et il n'est pas rare de voir Blanche Léridon à la télévision, notamment sur Arte, sur l'émission 28 minutes. Alors, elle est éditée par, je vous l'ai dit en commençant, la Maison Bouquin, maison d'édition française, qui n'est pas jeune, elle a été créée en 1979 par un monsieur Guicheler en tant que collection de Robert Laffont, et elle devient en novembre 2020 une maison d'édition en part entière dirigée par Jean-Luc Barré au sein du groupe Editis, donc le groupe Editis, vous savez, filiale de Vivendi, donc Monsieur Bolloré, depuis 2019, je crois. Bouquin prend son indépendance de Robert Laffont en octobre 2020 et c'est une des 52 maisons, excusez-moi du peu, d'édition du groupe Editis. Alors, groupe Editis, vous avez Robert Laffont, Julliard, Plomb, Perrin, Le Cherche-Midi, je ne vais pas tous vous les faire. Une concentration que d'aucuns pourraient trouver inquiétante, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Sous la direction de Jean-Luc Barré, la maison d'édition Bouquin conserve sa collection historique et s'enrichit d'un catalogue de fiction et de non-fiction, davantage en prise avec l'actualité, le mouvement des idées, les nouveaux modes d'expression littéraire et romanesque. Alors, Bouquin, c'est une maison qui n'est pas énorme, une dizaine de salariés. Elle publie une quarantaine de titres par an, dont une vingtaine pour la collection historique, qui représente le seul entre 200 000 et 250 000 exemplaires par an. Alors, quatrième de cet essai de Blanche Léridon, je vous le livre in extenso. Le matin nous appartient-il encore ? Dans cette variation tout à la fois profonde et divertissante, il apparaît comme un enjeu résolument contemporain. Le matin est représentatif de notre rapport schizophrène au temps. un temps que beaucoup préféreraient passer à l'horizontale, mais que de présumer bonne mœurs, la morale, la religion ou la société capitaliste ont imposé comme verticale, où l'intimité du quotidien côtoie sans résistance le tumulte du monde. Un temps également saturé d'images qui ont façonné nos comportements. La publicité, les séries télé, l'art ou la littérature ont construit des représentations d'un matin tantôt homogène, rassurant et familial, tantôt solitaire, routier et banal. Travailler ou contraint pour les uns, amoureux ou créatif pour les autres, nous ne sommes pas tous égaux, premières heures du jour, et entre une double journée, les femmes semblent tout particulièrement touchées par les clichés tenaces et les injonctions contemporaines nouvelles. Autour de la même table du petit déjeuner, ce livre énergisant, le premier consacré au matin, réunit Georges Perec et les Chocopops, Albert Cohen, Angela Merkel, Marc Aurèle et Jean-Jacques Goldman, avec une ambition, montrer autrement ce que chacun de nous voit tous les jours sans jamais le voir véritablement. Alors, table des matières, ben, il n'y en a pas de table des matières. Hein, il y a une introduction où l'on va nous parler de mythologie, de rituels masculins et féminins, de travail, de moralité, d'informer, de connecter, de tous les matins du monde, des dimanches matins, où l'impossible épilogue, c'est le chapitre qui termine cet essai. Alors, quelques lectures, comme nous le faisons traditionnellement, pour vous donner l'ambiance de ce livre. Alors, j'ai pioché au hasard, au début du livre, à la page 32, ça s'intitule « Le soleil vient de se lever ». La créativité poétique a trouvé sa digne héritière avec l'inventivité publicitaire. Portée par l'industrie agroalimentaire et l'électroménager, elle a contribué à la construction de nos imaginaires matinaux et en particulier celui du petit-déjeuner. Prenez quelques secondes pour assembler vos souvenirs publicitaires d'enfance. Vous y trouverez forcément un paquet de céréales, une bouteille de Tropicana ou un travelling surplombant de vastes plaines colombiennes, terre fertile de votre café Arabica. Un article fait remonter au début du XXe siècle l'apparition du concept de, entre guillemets, repas le plus important de la journée, théorisé par la diététicienne Lena Cooper dans un magazine américain. Alors, propriété d'un certain John Harvey Kellogg, ça doit vous rappeler des souvenirs, ça c'est moi qui l'ajoute, inventeur des grandes flex quelques années plus tôt. Les produits de la marque K majuscule arriveront en France un demi-siècle plus tard, en 1968, un an après la création de Lactel, charriant leurs images de familles idylliques et d'enfants au sourire radieux et entraînant dans leur sillage d'autres grands noms de l'industrie agroalimentaire, à commencer par Nestlé, avec son ami Ricoré. Voilà, première lecture, et puis une deuxième, on va la chercher un peu plus loin dans le livre, presque au fond du livre, à la page 182, je vous la livre. L'histoire du petit déjeuner, loin des images lisses des premiers panneaux publicitaires qui en vantent les bienfaits, et donc aussi celle de l'exploitation des peuples autochtones et des matières premières, celle de la colonisation et de l'esclavage. Citation, ouvrez les guillemets, « Sans l'esclavage, écrit Gratalou, le petit déjeuner ne serait sans doute pas apparu », fermez les guillemets. Je précise que Christian Gratalou, dont j'ai déjà parlé de livres, sur cette antenne, est un géographe extrêmement productif. Reprenons la lecture. Et au cœur de cette mondialisation se trouve cet autre triptyque, le cacao d'Amérique, le thé d'Asie et le café d'Afrique. Trois breuvages issus de plantes tropicales inadaptables en milieu tempéré, trois marqueurs, trois legs toujours très puissants de l'encombrant passé colonial. Rappelons rapidement l'étendue du phénomène dont il est ici question. 4 millions de tonnes de thé et 7 millions de tonnes de café sont vendues chaque année dans le monde. Plus de 2 milliards de tasses de café sont ingurgitées chaque jour pour un marché annuel d'environ 12 milliards d'euros. Près des trois quarts des importations de café se concentrent en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, et près de 80% de la production de café est exportée. Alors, conclusion, voilà, de lecture qui vous donne un peu l'ambiance du livre. Conclusion de l'essai. Alors, il n'y a pas vraiment de conclusion, mais j'ai bien aimé les dernières phrases de ce livre dans ce qui n'est pas une conclusion, mais qui s'appelle, je le citais tout à l'heure, « Dimanche ou l'impossible épilogue ». Alors, je vous lis ces phrases que j'ai bien aimées. Je relis ces quelques lignes d'un élève de Certeau dans lesquelles je trouve non pas un point final, mais une ligne de fuite. Ouvrez les guillemets, donc on parle de cet élève de Certeau. La matinée du dimanche est une progression lente de plus en plus intense jusqu'à la chute d'après le repas dans la torpeur du dimanche après-midi. Le dimanche est véritablement scindé en deux côtés dont l'un porte l'éclosion de la fête préparée depuis le vendredi soir et dont l'autre est déjà une pente vers le sinistre lundi. Vu du matin, l'après-midi du dimanche est encore masqué par l'apothéose du repas. Vu de l'après-midi, le matin, c'est déjà la veille, un autre temps nostalgique dont on attend le retour le prochain samedi. Voilà, c'est extrait de Pierre Mayol, Le Marché. C'est l'invention du quotidien, tome 2, sous la direction de Michel de Certeau, que nous citions en démarrant. Alors, pourquoi faut-il lire ce livre et que nous apprend-il ? Eh bien, d'abord, c'est un livre extrêmement agréable à lire. Il est bien écrit, au ton vif et plaisant, au contenu bien documenté. Ce n'est jamais ennuyeux. C'est un livre qui nous parle de nous, parce que cette aventure matinale qui est le réveil et la préparation à la journée qui s'annonce, eh bien, nous la vivons tous à notre rythme, chacun avec ses habitudes, ses manies, ses contraintes, ses marottes. Ces rituels parfois rassurants, rituels qui peuvent aussi être voluptueux, et c'est cela qui fait tout l'intérêt de cet essai. Mais bien évidemment, le matin, c'est toujours, on se presse toujours, il faut aller vite, il y a beaucoup de tâches à accomplir en un minimum de temps, et nous n'avons pas vraiment ni le temps, ni la disposition d'esprit d'y réfléchir. Nos gestes, il faut bien le reconnaître, sont plutôt répétitifs, hein, le matin, fruit de coutumes bien ancrées, souvent standardisées. À ce moment de la journée, le temps nous est compté, ce temps que notre époque toujours pressée ne nous permet plus de dompter. Et pour beaucoup, mais pas tous, le corps et l'esprit mettent quelque temps à être parfaitement opérationnels. Alors Blanche Léridon fait le point pour nous sur ce moment essentiel de notre journée. Elle le fait avec profondeur, avec culture et aussi avec humour. Chacun, à un moment ou l'autre de la lecture, se reconnaîtra fatalement et apprendra comme d'autres l'ont jadis vécu ou le vivent aujourd'hui, ce moment à la fois banal mais important car fondateur du jour qui commence. Odyssée ordinaire, un beau titre qui résume à lui seul le contenu de cet ouvrage si sympathique et qui fera, j'en suis sûr pour beaucoup, un beau cadeau de Noël. C'était Essai marquant par Jacques Lavergne avec à la réalisation Sacha Gauchy. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à tous!